Bonjour et bienvenue dans les vols 0G. Le voyage que nous vous proposons vous emmène un peu avant les limites du ciel. Il vous fera découvrir l'impesanteur. De façon à permettre une meilleure familiarisation avec cette dimension inhabituelle, nous vous conseillons d'utiliser un casque audio. Il vous permettra une immersion dans les sensations inédites du son spatialisé. Nous serons à vos côtés tout au long de cette expérience.
Quand je vois passer l'annonce de l'Observatoire de l'espace, qui propose à un artiste une résidence en apesanteur, je ne réfléchis même pas. J'appelle dans la minute qui suit, et je les bombarde de propositions. Je crois que pour faire le vol, je suis prêt à tout. Non pas parce que c'est pittoresque, ou hors du commun, ça joue bien sûr, mais parce que c'est la continuité naturelle de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai étudié la Terre, je l'ai parcourue, j'ai écrit, filmé. C'est normal que je me rapproche maintenant de l'espace et des étoiles.
Ça turbule pas. On est à la vitesse maximale de l'avion parce qu'on a intérêt à avoir l'énergie maximale au départ. Et là, tout d'un coup, le pilote, il a un petit grain. Il va cabrer l'avion jusqu'à 47 degrés d'assiette.
Les vols 0G permettent de recréer les conditions de l'impesanteur nécessaires à l'expérimentation spatiale. Ils sont l'occasion, principalement pour des spationautes et des scientifiques, d'éprouver de facto l'absence de gravité.
Et là, on est parti pour 20 secondes d'hypergravité.
Je n'ai pas plus de goût que ça pour la conquête spatiale. Quand j'étais petit, j'ai vu Armstrong à la télé. Je trouve que ça manque de poésie. Les costumes, le décor, tout est terriblement moche. Ça ne fait pas rêver. Du coup, quand ma candidature est retenue, mon imagination se met en marche. D'abord pour essayer de me raccorder à quelque chose de trippant. Je lis beaucoup de SF, et je m'imagine déjà cosmonaute, mais aussi je cogite sec, par rapport à l'expérience elle-même, qui est décrite de façon effrayante. On peut être malade, ne pas supporter, faire une crise d'angoisse. Bref, j'appréhende un peu.
La durée d'un pesanteur est d'une vingtaine de secondes par parabole. Il y a 30 paraboles, qui le plus souvent se passent très bien. Néanmoins, il est préférable que vous vous prépariez, ne serait-ce que psychologiquement.
Je regarde Apollo 13. J'ai aussi l'idée de faire des attractions foraines. Ce genre de truc me fout hyper la trouille. Même avec mes enfants, je n'ai jamais réussi. Mais je me dis que c'est une bonne préparation. Heureusement, je ne le fais pas car je crois que ça m'aurait traumatisé. Je regarde aussi à quoi correspond cette histoire d'impesanteur. C'est ce qu'on appelle une idée forte. C'est Jésus marchant sur les eaux, Thérèse d'Avila qui s'envole au plafond de son église, et pas mal d'autres saints aussi, avec des témoignages précis. Je trouve également le récit d'un prodige, au Tibet, rapporté par un ingénieur dans les années 30, ou des moines, avec des techniques secrètes, mais qui s'apparentent à un dispositif scientifique, font léviter une pierre le long d'une falaise. En m'adonnant à l'impesanteur, il est clair que je vais donc pratiquer une magie puissante. Je me demande aussi si je vais devenir un saint. Je passe une visite médicale. On vérifie que mon cœur va tenir, que je suis capable de supporter l'expérience. Et je suis déclaré apte, ce qui me soulage et en même temps m'inquiète un peu.
Durant le vol, votre corps de zéro note sera soumis à une poussée de 2G, soit deux fois son poids habituel.
Finalement, quand j'arrive à la base, je suis en plein trip. Comme si je passais dans une autre dimension. Alors qu'en vrai, c'est juste derrière l'aéroport de Mérignac, à Bordeaux. Il y a plein de hangars, des panneaux défense de filmer, mais ça fait quand même épisode des X-Files.
Veuillez vous assurer d'être en possession d'une pièce d'identité et de votre certificat médical. Afin de garantir le bon déroulement de l'expérience, il est nécessaire de prendre connaissance, avec attention, des consignes de sécurité.
Je suis venu en avance, quelques jours avant le vol, pour être avec les scientifiques. Je passe mon temps à déambuler au milieu du matériel servant à la préparation, à poser des questions, à essayer de faire ami-ami avec les savants qui sont là. J'imagine plein de choses. Que ces gens ne sont pas vraiment des gens, mais des êtres différents, en train de se livrer à des occupations que seuls comprennent. Porteurs de plein de mystères que je ne comprends pas, mais qui sont certainement merveilleux, effrayants, profonds.
La gravité, en fait, c'est la conséquence d'une des quatre forces fondamentales de la physique. Cette force, ça va être la force de gravitation. En fait, c'est extraordinairement simple, c'est une force qui lie les masses des différents objets.
Je pense que ce sont des êtres à part, éclairés, bons, généreux. En fait, au bout d'un moment, je me rends compte qu'ils sont comme tout le monde.
Quand on va mettre un objet très massif, par exemple la Terre, si je compare la masse de la Terre à la masse de cette banane, si je laisse tomber la banane, elle tombe, c'est-à-dire qu'en fait, la Terre a attiré la banane. Donc la force de gravitation, c'est une force qui fait que quand vous avez deux objets en présence dans l'espace, ces deux objets vont s'attirer.
Imaginez-vous que vous êtes dans la station spatiale, vous êtes un astronaute, et vous passez d'un module à l'autre en étant à l'envers, sur le côté. Évidemment, au cours de l'entraînement que vous avez eu au sol, vous vous êtes fait votre propre référence du haut et du bas. Et là, imaginez-vous que c'est vous qui êtes à l'endroit et que tous les autres sont à l'envers. Que le plancher qui est en haut devient votre plafond et que le plafond qui est en bas devient votre plancher. C'est exactement ce qu'on va faire ici, en créant une référence haut-bas pour Thomas, avec non seulement une image, la Terre en bas, la station en haut, mais des panneaux qui indiquent le haut et le bas.
Dans l'espace, en effet, le corps n'a plus de poids. Il n'y a plus de référence de haut et de bas.
Le coach de cosmonautes, qui vient de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, nous explique que sans gravité, on perd ses repères. Un cosmonaute doit donc être capable de forger sa propre représentation mentale du haut et du bas, de façon à être intérieurement absolument autonome.
Même s'il ne nécessite aucune aptitude physique particulière, l'examen médical que vous avez dû effectuer est obligatoire pour participer au vol 0G. Le vol vous serait déconseillé en cas, par exemple, de troubles cardiaques. Si vous êtes de nature angoissée ou sujet de façon exagérée au mal des transports, nous serons là pour remédier au mieux à ces désagréments. Il est cependant normal que vous soyez un peu anxieux. Car les vols 0G, au-delà de leurs aspects périlleux, nous connectent avec l'inconnu. N'hésitez donc surtout pas à nous faire part de vos peurs, qui se dissiperont, nous l'espérons, dès la première parabole.
Il y a le briefing de sécurité, qui, comme tous les briefings de sécurité, vous parle du pire en vous disant qu'il n'arrivera pas.
Vous êtes maintenant prêt pour le départ. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon vol.
En tant qu'écrivain, je vais essayer de découvrir si l'inspiration trouve sa source dans l'impesanteur. Je me demande aussi ce qui se passe quand on quitte une planète pour ne jamais y revenir. Est-ce que nos souvenirs s'envolent avec nous, sous forme de carte postale ? Est-ce qu'on oublie tout ? J'essaye de me concentrer sur mes sensations, parce que je sais qu'il y a un espace qui s'ouvre, pendant une fraction très courte, où l'on échappe à une des forces qui nous a modelés. Qu'y a-t-il dans cet interstice ? Mais c'est très rapide, fugace, et difficile à verbaliser. J'essaye donc d'emmagasiner dans mon corps le maximum de traces de cet état si curieux, en espérant qu'elles ressurgiront ensuite.